Le prince de la maison de David, lettre 26. Mon cher père. Dans ma dernière lettre, je t'ai dit que Lazare était mort. Je t'écris ceci pour te dire maintenant que celui qui était mort est vivant. Lazare vit. Celui que je vis mort et enterré et scellé dans la cave rocailleuse de la tombe, vit de nouveau, venant de la mort. Et, en ce moment, pendant que j'écris cet extraordinaire récit, j'entends sa voix sur la véranda, alors qu'il est occupé à relater, avec une profonde crainte, ce qui a été évoqué partout, à son sujet à la foule de gens étonnés, venus de Jérusalem. Même Pilate, le procurateur romain, arrêta son chariot à la porte ce matin, pour voir le Lazare, qui fut une fois mort, et parler avec lui. Comment, mon cher père, comment trouverai-je le langage adéquat pour te dire tout ce qui est arrivé dans ces dernières 24 heures? Comment te ferai-je pleinement croire le merveilleux récit pour lequel j'ai pris ma plume pour écrire? Je ne sais pas comment commencer ce merveilleux récit, car la joie m'empêche de mettre mes idées en ordre et de te présenter les faits de façon intelligente. Dieu s'est réellement souvenu une fois encore de son peuple élu d'Israël et a montré son pouvoir parmi nous. Tu dois déjà avoir été informé, par ma lettre, de comment Lazare s'était affaibli rapidement après sa soudaine attaque d'hémorragie de la poitrine et qu'il mourut aussitôt. Et aussi de comment, dans l'espoir qu'il éviterait la mort, on envoya en premier appeler Jésus pour venir à lui. Mais Bétabara était à une longue journée de voyage, et, avant que le messager ne l'atteigne, l'âme de son ami était partie. Le jour suivant, il fut enterré, une très grande foule de gens de la ville de Béthanie et de Jérusalem était venue à son enterrement, car il était beaucoup aimé. Même le chariot de la noble dame, Lucia Metella, la bonne et vertueuse femme de Pilate qui était présente pour honorer les obsèques de celui qui n'avait d'autre renommée que ses vertus. La procession funéraire était si longue, que les étrangers faisant une pause, demandaient quel grand maître en Israël, ou, quelle personne considérée, était emmenée au sépulcre. Certains répondaient, c'est Lazare, le laborieux scribe. D'autres disaient, un jeune homme qui a dévoué sa vie pour honorer sa mère. D'autres répondaient, comme Lazare lui-même s'il était vivant, les aurait amenés à dire. C'est Lazare, l'ami de Jésus. Vivant, ceci était son titre de fierté, et mort, il n'en aurait pas voulu d'autre. Ah, cher père, puisse le jour venir encore où tu estimeras un tel titre beaucoup plus honorable que l'or de l'Égypte, ou toute la gloire de ta fière descendance d'Abraham et de David. L'endroit où il devait le mettre était la cave dans laquelle son père et sa mère furent enterrés. C'était dans une profonde et sombre vallée, fortement ombragée par des cyprès, des palmiers, des grenadiers, et un large tamari poussait, avec ses majestueuses branches, étreignant le sommet du retiré endroit du sépulcre, pendant qu'une abrupte falaise du mont des Oliviers était suspendue de façon menaçante par-dessus. De son sommet, où j'étais monté la nuit précédente, regardant en direction de Jérusalem, sont visibles les majestueuses hauteurs du lointain temple, et les remparts martiaux de la cité de David, pendant que la lumière du soleil, se projetant sur l'éblouissante bouclier d'une sentinelle qui se tenait sur sa haute tour de garde, le faisait briller comme un petit soleil. Le lointain son d'un clairon romain venant de la tête d'une cohorte, qui venait juste de sortir d'un défilé, parvint alors doucement et musicalement à nos oreilles, alors que nous nous tenions en silence autour du bocage où nous devions placer le mort. Emilius, le centurion, était aussi présent, portant une écharpe blanche par-dessus sa cuirasse d'argent, en signe de peine, car il aimait Lazare. De lui, cher père, je n'ai pas parlé récemment, car si je devrais commencer à écrire de lui, je n'aurais pas de place dans mes lettres, pour tout autre thème. Tu le verras bientôt, et jugeras de toi-même, combien il est digne de ta confiance, et de tout l'amour de mon cœur. Je suis si reconnaissante à toi, cher père, de ne pas refuser ton consentement pour notre union, mais seulement de le garder jusqu'à ce que tu auras rejoint Jérusalem. Que les courants bénis emportent ta barque rapidement vers Jaffa, afin que je puisse aussitôt t'embrasser, et te présenter le noble Emilius, qui est aussi fidèle adorateur de notre Dieu, que s'il fût un fils d'Abraham par naissance, plutôt que par adoption. Les rites sacrés au bocage étant terminés, ils soulevèrent de la bière, le corps du jeune homme mort, et, quatre jeunes, aidés par Emilius à la tête pour le soutenir, le portèrent dans la caverne béante. Pendant un instant, ils s'attardèrent à l'entrée, afin que Marie et Marthe puissent avoir encore un regard, et imprimer sur ses lèvres glacées, un dernier baiser, presser une fois encore sa tête inconsciente à leur amour et leur cœur brisé. Je jetai aussi un regard sur lui, pleurant à leur peine, et peinant de voir une si noble face, belle comme de l'albâtre ciselé, sur le point d'être confiée à un répugnant ver du caveau. Il fut si bon, surpassant tous ses compagnons en toutes choses grandes et pures, et doux de caractère, que mes larmes, librement, coulèrent. Les jeunes hommes s'avancèrent lentement dans l'obscurité de la cave. Marie se précipita à l'intérieur et, avec des cheveux ébouriffés, elle cria. « Oh, ne le retirez pas pour toujours loin de ma vue. Oh, mon frère, que ne suis-je pas morte pour toi !» car je suis disposé à me coucher avec le ver et l'appeler ma sœur, et à m'endormir dans les bras de la mort, comme sur le sein de ma mère, afin que tu puisses vivre. Tu étais heureux et honoré et devrais avoir vécu. Oh, frère, qu'il ne te retire pas pour toujours loin de ma vue. Sans toi, comment la vie sera-t-elle vie ? Emilius entra dans la tombe, et tendrement, la séparant du corps, sur lequel elle s'était jetée dans un éloquent abandon de sa grande peine, il la conduisit, me faisant signe, la plaça dans mes bras. Marthe portait sa peine avec plus de sang-froid, mais sa face exprimait combien elle était profondément émue intérieurement, façon de dire adieu pour toujours à son unique frère, à son bien-aimé Lazare, le solide rocher qui avait toujours présenté son front au choc des vagues orageuses de cette vie, au moment où elle les menaçait Marie et elle, une tour de force pour elle dans le jour de trouble et une fontaine intarissable de sainte joie domestique. Le corps étant placé dans une niche creusée dans le rocher, il fut décemment recouvert d'un manteau tombal, sauf la calme face, qui fut enveloppée, tout autour, d'un linge blanc comme neige. Les jeunes filles s'avancèrent et jetèrent des fleurs sur sa tête, et, abondantes furent les larmes sincères, coulant des paupières des hommes, comme de celles des vierges, qui rendirent hommage à son mérite. Les cérémonies d'enterrement terminées, cinq hommes forts replacèrent la lourde porte de pierre, bien ajustée, à l'entrée de la cave et ainsi protégèrent celle-ci. La porte fut ajustée dans une emboîture, de sorte qu'il fallait le même nombre de personnes pour l'ôter. Au moment où ils se retirèrent avec les cœurs lourds, après cette dernière tâche, pour le bien-aimé mort, le soleil déclina au-delà des collines bleues d'Ajalon à l'ouest, dans un lac d'or. Pour apprécier le coucher du soleil, et soulager nos émotions de tristesse, je me retirai avec Marie, au sommet de la colline, d'où je vis le soleil dorant le pinacle du temple, et le faisant apparaître, comme une gigantesque lance levée vers le ciel. Des lévites en plein sacrifice du soir vint, adoucis par la distance, le chant profond du service du temple, émis par un millier de voix. Le nuage, provenant du sacrifice de l'autel, s'éleva lentement dans l'air calme, et, captant la splendeur de derniers rayons solaires, il brilla, comme si ce fût la colonne de nuages et de feu, qui se tenait au-dessus du tabernacle dans le désert. Les ouvriers dans les champs se hâtaient vers les portes, avant qu'elles ne soient fermées pour la nuit, par les gardes romains, et les habitants des villages se dépêchaient, de peur qu'ils ne soient gardés dans la ville pour la nuit. Il y avait un sacré silence dans l'atmosphère apathique qui semblait être en sympathie et touchante harmonie avec la scène que nous venions de vivre à côté. Avec Marie appuyée sur mon épaule, sanglotant, je m'assis sur un rocher, abandonnant mon cœur à la douce influence de l'heure. Nous étions seuls, en dehors d'Emilius qui avait chevauché après nous, anxieux pour notre sécurité, et qui s'assit sur son cheval tout près, fixant son regard sur la beauté de la scène du soir. Marthe et ma cousine, avec Jean, étaient retournées à la maison, maintenant désolées, dont Lazare avait été la lumière et l'honneur. « Je suis plus calme maintenant, » dit Marie, après avoir levé sa tête un moment en regardant ma face, ses yeux splendides brillant pleins de larmes jusqu'au bord. « Je suis mieux maintenant. » La paix de doux cieux semble être descendue et être entrée dans mon cœur. Les cieux de mon âme sont aussi clairs, purs et pacifiques que ceux au-dessus de moi. L'esprit de Lazare envahit et sanctifie tout ce que je vois. Je ne vais plus pleurer. Il est heureux maintenant, très heureux, alors, essayons d'être sains et d'aller vers lui car il ne peut pas revenir vers nous. À ce moment, nous entendîmes les bruits des sabots des chevaux. Emilius sortit, de ce fait, de sa rêverie, retrouva son siège et posa sa main sur son épée, car quoique les Romains avaient la domination dans notre pays, comme conquérants, ils n'étaient pas aimés, et rarement une semaine passe sans conflit entre les soldats de la Légion et les gens ordinaires parmi les Juifs, et même les officiers ont été attaqués quand, voyageant loin de Jérusalem, ils ne sont pas suffisamment accompagnés. Par conséquent, Emilius, qui n'avait avec lui, que son serviteur celte aux cheveux blancs, Frane, se prépara à recevoir un ennemi ou accueillir ses amis. Le moment suivant, autour d'un rocher saillant du contrefort du mont des Oliviers, apparut un cavalier, dans un costume sauvage et guerrier, d'un Ismaélite du désert, brandissant une longue lance en l'air, ensuite un autre, puis un autre, similairement habillé et armé, et monté sur de superbes chevaux du désert, furent irruption. Ils furent immédiatement suivis par un grand jeune homme d'apparence hardie, dans un riche costume moitié grec, moitié arabe, quoique ses traits sombres et élégants étaient décidément israéliens. Il montait un superbe cheval abyssinien, et était assis sur son dos, comme le centaure païen, que j'avais lu dans les livres latins, qu'Emilius m'avait donné à lire. Nous ayant vu, il ralentit son cheval, sourit et agita sa main couverte de perles, avec une splendide courtoisie. Mais à la vue d'Emilius, ses yeux sombres jetèrent des éclairs, et, bondissant sur son étrier à ses pieds, il brandit son étincelant falchion, vers lui puis fonça sur lui avec un cri, comme le son d'une trompette. Le brave soldat romain reçut la charge en tournant son cheval légèrement, et en tenant le bout de fil sur la lame de sa courte épée. nous nous rencontrons enfin, ô Romain, cria ce chef sauvage et plein d'allant, au moment où il tournoya son cheval comme un éclair puis, une fois encore fonça sur le chevalier romain armé de fer. Oui Barabbas, et avec joie je te salue, répondit Émilius, plaçant un clairon à ses lèvres. En entendant le son clair du clairon réveillant l'écho du mont des Oliviers, le redoutable chef voleur, dont tu m'as entendu parler auparavant, cher père, dit de façon arrogante et avec un regard de mépris. Toi, un tribun et commandant d'une légion, tu appelles pour de l'aide, quand je t'offre une bataille égale, main à main, et ne demande aucune aide des lances de mes propres hommes. Je ne connais pas de bataille égale avec un voleur. Je te pourchasserai comme je le ferai pour le loup et les bêtes sauvages du désert, répondit Émilius, le pressant de près. À un signal du voleur chef, ces quatre hommes, qui avaient arrêté leurs chevaux à une courte distance, près de la tombe de Lazare, émirent un cri perçant comme l'aigle, qui me fit glacer le sang, et descendirent comme le vent pour vaincre Émilius. Jusqu'ici, j'étais restée comme stupéfaite en étant une spectatrice involontaire d'une bataille soudaine, mais en voyant son danger, je fus à ses côtés, sachant à peine comment j'atteignis cet endroit. « Retire-toi, chère Adina, dit-il autoritairement. J'aurai à te défendre ainsi que moi-même, et ces barbares donneront assez à faire à mes deux mains. » Pendant qu'il parlait, il tourna la tête de son cheval pour faire face au quadruple choc et je m'échappai, je ne sais comment, avec l'impulsion de me hâter à Béthanie pour du secours. Mais le ciel interposa son aide. Un détachement de gardes du corps, de Pilate, qu'Émilius avait laissé dans un bocage d'olives pour bivouaquer et se rafraîchir, ainsi que les chevaux ayant entendu l'appel du clairon de leur chef, monta alors au petit galop la colline, une vingtaine d'hommes armés, des barbus gaulois, qui avaient servi en Bretagne contre les Pictes. À leur vue, Barabbas et son groupe s'enfuirent comme des pigeons sauvages poursuivis par un nuage de faucons ituréens. Cependant, Barabbas se retourna plus d'une fois pour défier ses ennemis. Émilius arriva aussitôt à son côté, saisit la ceinture cramoisie qui encerclait sa taille et le tint ainsi, tous les deux se battant alors qu'ils chevauchaient. La troupe romaine survint, après une bataille désespérée, le célèbre voleur-chef fut attrapé vivant, quoique blessé de plusieurs plaies, et attaché avec sa propre ceinture à la colonne d'une des tombes. Émilius n'était que légèrement blessé, et je vis la vive joie qui brillait dans ses yeux, du fait d'avoir enfin capturé l'intrépide chef bandit, qui avait si fréquemment échappé auparavant, et attrapé celui pour lequel il avait fait tant de tentatives. Enfin, il avait en son pouvoir la terreur de tout le pays entre Jéricho et Jérusalem, tenu captive. Le prisonnier souriait, toujours orgueilleusement agressif, et regardait avec arrogance même dans ses liens. Ces hommes furent aussi capturés, les confiant avec leur chef à la charge de ses soldats pour être emmenés à la prison de Jérusalem, Émilius nous rejoignit, Marie et moi, et nous accompagna à la maison des deux sœurs. Il paraît que Barabbas, enhardi par la rumeur selon laquelle un riche groupe de marchands devait quitter Jérusalem au point du jour, s'était avancé près de la ville avec quelques suiveurs pour se dissimuler en attendant sa sortie et ainsi suivre son sentier, jusqu'à ce qu'il soit arrivé au défilé dans les montagnes de Bethel où sa troupe se tenait en embuscade. Et ce fut pendant qu'il cherchait un refuge contre tout regard parmi les tombes sur le flanc du mont des Oliviers, qu'il tomba soudainement sur nous. Émilius dit qu'il sera assurément crucifié pour ses nombreux crimes. Terrible punition. Et pour quelqu'un si jeune comme ce voleur du désert d'en arriver à une telle mort ignominieuse et agonisante, condamné à être suspendu pendant des heures sous les rayons solaires par ses pieds et mains lacérés, jusqu'à ce que, à la fin, la mort survienne par l'entépuisement de tous les pouvoirs de la nature. Je suis étonné qu'une nation si polie et si humaine comme Rome puisse infliger une telle mort cruelle et agonisante, même s'il s'agit de malfaiteurs. La semaine dernière, alors que je marchais avec mon oncle Amos parmi les sépulcres des rois, hors de la porte du nord, étant empêché de rentrer par cette même porte par le passage d'un détachement romain en marche pour réprimer une insurrection en Samarie, nous passâmes par la porte de l'ouest. Pour atteindre celle-ci, nous devions traverser la place du Calvaire, où deux croix étaient érigées. Sur l'une était accroché le corps encore vivant d'un juif séditieux, exécuté sur ordre du procurateur. Il se tordait de façon effrayante, pendant que ses gémissements pénétraient mon cœur. Je me couvris les yeux et les oreilles, je demandai à Rabbi Amos de nous dépêcher, pour quitter un tel terrible spectacle. Pourtant c'était en pleine vue de la ville et de la route, et plusieurs spectateurs, des hommes comme des femmes, s'attardaient pour regarder. Ignominieuse, réellement, doit avoir été la vie d'un homme pour être condamné justement de souffrir une telle mort. Dans cette lettre, père chéri, j'avais l'intention de te relater comment Lazare a été ramené à la vie, mais c'est déjà trop avec ce qui précède, que je le reporte pour ma prochaine lettre. Mais, crois-moi que Lazare est vivant et bien portant, et des milliers affluent à Béthanie et se pressent, dans la maison pour apprendre cette grande chose qui est arrivée. Je te dirai seulement, pour clore cette lettre, que ce fut Jésus qui le ressuscita de la mort. Ce prophète de Dieu au sujet duquel tu as encore du doute s'il est le Messie ou non. Ah, c'est lui, qui a ressuscité le fils de la veuve de Naïn, qui marcha sur la mer, à une lieue de l'embarcation de ses disciples, qui calma la tempête par une parole de son pouvoir, qui nourrit 5000 hommes avec 5 livres de pain, qui guérit le fils du noble Hadad, qui ressuscita la fille du dirigeant galiléen Jairus, qui restaure le sourd, l'aveugle, le muet par une parole, un toucher, un regard, lui, dont le sentier et la vie sont entourés d'une telle multitude de témoignages. Son pouvoir surnaturel, de prophétie, de puissantes œuvres et éclatants miracles. Ah, mon cher père, est-il seulement un homme ordinaire? Est-il un imposteur? Oh, n'est-il pas le Fils de Dieu, le Messie des prophètes, le lion de la tribu de Juda, le libérateur et future gloire d'Israël? N'est-il pas celui dont Abraham vit le jour de splendeur au loin? N'est-il pas le Shiloh, que le patriarche Jacob vit se lever pour manier le sceptre d'Israël? N'est-il pas le puissant Fils de Dieu au sujet duquel la brûlante plume d'Ésaïe écrivit en ces mots d'inspiration? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on appellera son nom, merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Il s'assiera sur le trône de David et l'établira avec justice et jugement, dès maintenant, même pour toujours. Pense à ces choses, cher Père, oh, médite-les bien et ne laisse pas la pauvreté de Jésus être une pierre d'achoppement pour ta foi en lui comme étant le Messie. Qu'il ait ressuscité Lazare de la mort est seule une évidence suffisante pour moi qu'il est le Fils de Dieu. Ton affectueuse fille. Adina.